Prologue. Où l'on trouvera une brève histoire de l'Empire du Levant. D'après les empereurs de Melceny et de Maloré. Édition de l'Université de Melceny. Les origines de la Melceny se perdent dans la nuit des temps. D'après certaines légendes, les ancêtres des Mélcènes seraient venus dans des embarcations rudimentaires depuis l'autre côté du vaste océan qui s'étendait à l'est de la Malorée. Selon d'autres, ils descendraient de l'étrange culture établie en Dalassie. Quoi qu'il en soit, la civilisation Mélcène est indéniablement la plus ancienne du monde. Les Mélcènes ont toujours été un peuple de marins. On situe leur berceau originel dans le chapelet d'îles qui borde la côte orientale du continent maloréen. Melceny, la capitale, était une ville de lumière, une oasis de culture, quand Tolonette n'était qu'un misérable village et Malzette une nébuleuse de tentes pouilleuses. Seule Kel, dont les habitants ont toujours voué leur vie à la contemplation des cieux, soutenait la comparaison avec le foyer ancestral des Melceny. La Melceny sortit de son splendide isolement à la suite d'un cataclysme. Il y a 5000 ans environ, se produisit, loin à l'ouest, une catastrophe naturelle que les Angaraques et les Aloriens attribuent à une controverse divine. Cette explication fantaisiste donne une idée de la vision que se faisaient les esprits primitifs des forces de la nature. Quelle qu'en soit la cause, une faille gigantesque s'ouvrit dans le proto-continent, provoquant un raz-de-marée colossal. Les eaux commencèrent par descendre, puis remontèrent et se stabilisèrent plus ou moins à leur niveau actuel, déterminant le tracé des côtes tel qu'on peut l'observer aujourd'hui. Pour la Melceny, ce fut un désastre. La moitié des terres habitables furent englouties sous les flots, mais l'essentiel de la population en réchappa et se réfugia dans un dénuement absolu sur les parties encore émergées. Melceny, la capitale, qui était jadis une belle ville de montagne, épargnée par le climat tropical débilitant des basses terres, fut gravement éprouvée par ce bouleversement. D'abord détruite par le séisme, puis submergée lors de l'élévation du niveau de la mer, elle se retrouva à moins d'une lieue de la nouvelle côte. Sitôt la période de reconstruction passée, il apparut que le territoire restreint ne subviendrait jamais aux besoins de la population, et les Melceny se tournèrent vers le continent. Le sud-est de la Malorée était à la fois le plus proche et peuplé par des hommes de la même souche ethnique qui parlaient une langue voisine, quoique abâtardie. Les Melceny émigrèrent vers cette région, constituée de 5 royaumes primitifs. Gandahar, Darshiva, Selanta, Peldan et Rengel. Et grâce à leur technologie supérieure, ils ne tardèrent pas à les absorber dans leur empire en expansion. L'un des atouts majeurs de l'Empire Melceny était l'administration. Pour n'être pas dénué d'inconvénients, la bureaucratie présente l'avantage de la continuité, du pragmatisme et de la lucidité et se consacre plus à la recherche du meilleur moyen d'atteindre ses objectifs qu'aux caprices, aux préjugés et à l'égocentrisme qui animent si souvent les autres formes de gouvernement. L'esprit pratique de l'administration Melceny frisait la caricature. La pensée Melceny était dominée par le concept de méritocratie. Si un individu de talent était ignoré par un département, il pouvait être assuré qu'un autre viendrait le débaucher. Les différents services du gouvernement Melceny se ruèrent dans les provinces nouvellement annexées sur le continent et passèrent la population au crible, à la recherche d'éléments de valeur. C'est ainsi que les peuples conquis furent directement assimilés par les instances vitales de l'Empire. Par souci d'efficacité, toujours, les Melceny laissèrent en place les maisons royales des 5 provinces du continent, préférant gouverner par le truchement des autorités établies plutôt que d'en instaurer de nouvelles. Pendant les 1400 années suivantes, l'Empire Melceny prospéra, loin des querelles théologiques et politiques qui agitaient le continent occidental. La culture Melceny était laïque, civilisée et d'un grand raffinement. L'esclavage était inconnu et le commerce avec les Angaraques et leur peuple assujetti de Caranda et de Dalassie très profitable. Melceny, la vieille capitale impériale, devint un centre majeur de culture et d'éducation. Il est regrettable que certains érudits mélcènes se soient tournés vers l'occultisme. Ils s'intéressaient surtout à l'alchimie, mais se livraient aussi à des recherches approfondies sur la sorcellerie et la nécromancie. Ils acquirent dans l'invocation des esprits maléfiques une maîtrise qui surpassait de loin les balbutiements des Morindiens ou des Carandacs et s'adonnèrent à des pratiques plus noires encore et autrement redoutables. Le premier affrontement avec les Angaraks eut lieu à cette époque. Bien que victorieux, les Mélcènes comprirent que les Angaraks leur étaient tellement supérieurs en nombre qu'ils finiraient inévitablement par l'emporter. Tout en consolidant leur position dans les protectorats de Dalassie, les Angaraks établirent avec les Mélcènes des relations pacifiques, empreintes de circonspection. Ces échanges commerciaux amenèrent peu à peu les deux peuples à mieux se comprendre, ce qui n'empêchait pas les Mélcènes de s'amuser du fanatisme religieux des Angaraks, même les plus cultivés. Au cours des 18 siècles suivants, les deux nations se livrèrent de petites guerres qui duraient rarement plus d'un ou deux ans, comme si les belligérants, peu désireux au fond d'engager une confrontation décisive, évitaient soigneusement de mener toutes leurs forces au combat. Pour apprendre à mieux se connaître, les chefs des deux nations prirent l'habitude d'échanger leurs enfants pendant quelques années. Les hauts fonctionnaires Mélcènes envoyaient leurs garçons à Malzet, chez des généraux Angaraks, dont les fils venaient parfaire leur éducation dans la capitale impériale. Il en résulta une jeunesse cosmopolite qui forma avec le temps la classe dirigeante de l'Empire de Maloré. L'un de ces échanges aboutit à l'unification des deux peuples. Vers la fin du quatrième millénaire, un commandant en chef Angarak confia son fils Kalat, alors âgé d'une douzaine d'années, au ministre des Affaires étrangères de Mélcénie, afin qu'il assurât son éducation. Le ministre entretenait des contacts amicaux aussi bien qu'officiels avec la famille impériale, et Kalat reçut un excellent accueil au palais impérial. L'empereur Molvan était un vieil homme qui n'avait plus qu'une enfant, une fille nommée Danera, d'un an plus jeune peut-être que Kalat. Les choses évoluèrent comme on pouvait s'y attendre entre les deux jeunes gens, mais le jour de son 18e anniversaire, Kalat fut rappelé à Malzet afin de débuter dans la carrière des armes. Kalat gravit les échelons de la hiérarchie à la vitesse d'un météore, et à 28 ans, il était nommé gouverneur général de la région militaire de Rakut, devenant ainsi le plus jeune commandant en chef de l'histoire Angarak. Un an plus tard, il revenait en Mélcénie, épouser la princesse Danera. Pendant plusieurs années, Kalat partagea son temps entre la Mélcénie et Malzet, établissant un centre de gouvernement dans chacun des deux pays. À la mort de l'empereur Molvan, en 3829, il était prêt. Les autres prétendants au trône avaient presque tous trouvé la mort, souvent dans des circonstances troublantes, et Kalat fut déclaré empereur de Mélcénie en 3830, malgré les violentes objections d'une bonne partie de la noblesse mélcène que ses cohortes réduisirent au silence avec une brutale efficacité. Danera lui donna 7 beaux enfants pour assurer sa descendance. En regagnant Malzet, l'année suivante, Kalat mena l'armée mélcène à la frontière de Delchine, où elle resta sur le pied de guerre, puis il lança un ultimatum à l'état-major. Il était à la tête des troupes de Rakut, sa propre région militaire, et des principautés orientales de Karanda, les gouverneurs militaires Angaraks lui ayant prêté serment d'allégeance. Ses forces, ajoutées aux hommes massés sur la frontière de Delchine, lui donnaient la suprématie militaire absolue. Il exigea alors d'être nommé généralissime des armées Angaraks. Il y avait des précédents. Si, d'ordinaire, les états-majors gouvernaient conjointement, il était jadis arrivé à certains généraux de se voir décerner ce titre. Mais la requête de Kalat constituait un fait nouveau. La dignité d'empereur étant héréditaire, il insista pour que le titre de généralissime des Angaraks le fût également. Kalat était désormais le chef suprême du continent comme empereur de Mélcénie et commandant en chef des Angaraks.